de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Un grand écrivain, créateur d'un univers féerique, romanesque, souvent sombre, peut imaginer, entre autres merveilles, un nid pour les oiseaux. On a ainsi appris, lors d'un épisode précédent, que James Matthew Barrie avait inventé des nids pour oiseaux à large bord sur lesquels les oisillons pouvaient faire leurs premiers pas. C'est du reste depuis ce jour que tous les oiseaux du monde imitent les créations du père littéraire de Peter Pan. Et depuis Peter Pan, tous les enfants qui ne veulent pas grandir et qui grandissent lisent ou écoutent les aventures de Peter Pan. Et ils peuvent aussi devenir des personnages de l'histoire. Histoire d'enfants, mais aussi histoire de mère. Voici le 7e épisode raconté par Claude Rich. C'était le 28 décembre 1993 sur France Culture.
Peter Pan, de James Matthew Barrie, avec Claude Rich et Catherine Laborde, chapitre 7.
Trois enfants, que leur imagination débordante a emportés dans d'extravagantes aventures, sont les compagnons de Peter Pan, un enfant qui les a fait voler des jours et des nuits jusqu'au pays de nulle part. Depuis des semaines, ils vivent sans relâche des tragédies dont jusqu'à présent ils sont sortis vainqueurs. Pourtant, aujourd'hui, il semble qu'un peu de calme soit au rendez-vous. Et Wendy, la fille aînée des Darling, décide de raconter aux enfants perdus l'histoire d'autrefois, de ce temps où elle vivait avec ses deux frères chez ses parents à Londres.
Alors écoutez bien, commença Wendy. Michael était à ses pieds et les sept garçons dans le lit. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Monsieur Darling et une dame, Madame Darling. Je les ai connus, coupa John pour embêter les autres. Je crois que je les ai connus aussi, dit Michael d'une voix incertaine. Ils étaient mariés, voyez-vous, reprit Wendy. Et qu'avaient-ils à votre avis? Des rats blancs, s'écria le bec inspiré. Non, qu'est-ce que c'est compliqué, dit la flûte. Il connaissait l'histoire par cœur. Tais-toi, la flûte. Ils avaient trois descendants. C'est quoi des descendants? Eh bien, tu en es un, toi, jumeau. Tu entends ça, John? Je suis un descendant. Les descendants sont simplement des enfants, expliqua John. Mon Dieu, soupira Wendy. Bon, alors, ces trois enfants avaient une nurse fidèle qui s'appelait Nana. Mais Monsieur Darling, un jour, s'est fâché contre elle et l'a attachée dans la cour. Et alors, tous les enfants se sont envolés. Oh, c'est une très belle histoire, approuva le bec. Ils se sont envolés, ajouta Wendy, jusqu'au pays de nulle part où se trouvent les enfants perdus. C'est bien ce que je pensais, dit Frison, avec animation. Je ne sais pas comment, mais c'est juste ce que je pensais. Oh, Wendy, s'écria la flûte, est-ce qu'un des enfants perdus ne s'appelait pas la flûte? Mais oui. Je suis dans une histoire. Chic, je suis dans une histoire, le bec. Chut, maintenant je veux que vous pensiez aux sentiments des malheureux parents avec tous leurs enfants disparus. Oh, gémirent-ils en cœur, tout en se souciant comme d'une guigne des sentiments des malheureux parents. Songez au lit vide. Oh, comme c'est triste, dit joyeusement le premier jumeau. « Je ne vois pas comment cette histoire peut finir bien, » fit remarquer le deuxième jumeau. « Et toi, le bec ? » ?»« Oh, j'en suis malade. »« Si vous saviez comme l'amour d'une mère est grand, » déclara Wendy triomphante, « vous n'auriez pas peur ?» Elle arrivait à cette partie de l'histoire que détestait tant Peter. « J'aime beaucoup l'amour d'une mère, » dit la flûte en flanquant à le bec un coup d'oreiller. « Et toi, le bec, tu aimes l'amour d'une mère ?»« Oh, tu parles, » dit le bec en ripostant de la même façon. « Voyez-vous ?» reprit calmement Wendy. Notre héroïne savait que la mère laisserait toujours la fenêtre ouverte pour le retour de ses enfants. Alors, ils sont restés au loin pendant des années et se sont beaucoup amusés. Ils ne sont jamais revenus ? Maintenant, dit Wendy en se concentrant pour ménager ses effets, jetons un coup d'œil vers l'avenir. Et ils adoptèrent tous l'attitude recueillie qui facilite les coups d'œil vers l'avenir. Des années se sont écoulées, mais quelle est cette élégante d'un certain âge qui descend à la gare de Londres ?»« Wendy, qui sait ?» cria le bec aussi excité que s'il n'en savait rien. « Est-ce que par hasard... voyons... non, mais si, c'est la belle Wendy !» Oh, et qui sont ces deux nobles personnages qui l'accompagnent, maintenant devenus des hommes faits? Serait-ce John et Michael? Oui, oui, ce sont eux. Oh, vous voyez, cher frère, dit Wendy en tendant la main au-dessus d'elle, la fenêtre est toujours ouverte. Et maintenant, nous sommes récompensés de notre confiance totale en l'amour d'une mère. Alors, ils s'envolèrent vers leur maman et leur papa, et la plume ne peut décrire une scène d'une telle félicité sur laquelle nous jetons donc un voile. C'était une bien belle histoire, et les enfants en étaient aussi ravis que leur jolie narratrice. On ne pouvait rêver mieux. Nous désertons le foyer, totalement dénués de cœur que nous sommes. Les enfants sont ainsi, mais ils sont par ailleurs si séduisants. Et nous savourons un plaisir purement égoïste. Puis, quand renaît en nous le besoin d'affection, nous revenons dignement la quêter, sachant que nous serons reçus avec effusion, et non pas rabroués. Si grande en vérité était leur confiance en l'amour maternel, qu'ils s'octroyaient le droit de rester encore un peu plus longtemps sourds à la voix du cœur. Mais l'un d'entre eux en savait plus long que les autres, et lorsque Wendy eut terminé, il laissa échapper un gémissement sourd. Qu'est-ce qui t'arrive, Peter ? Cria-t-elle, courant vers lui en le croyant malade. Elle le palpa avec sollicitude, en dessous de la poitrine. Vois-tu mal, Peter ? Ce n'est pas ce genre de souffrance, répondit Peter d'un air sombre. Alors quel genre ? Dis-moi. Wendy, tu te trompes à propos des mères. Ils se rassemblèrent tous autour de lui, apeurés, tant son agitation était alarmante. Alors, avec une belle candeur, il leur révéla ce qu'il avait jusque-là caché. « Il y a longtemps, dit-il, j'ai cru comme vous que ma mère garderait toujours la fenêtre ouverte pour moi. Je suis donc resté absent durant des lunes, et puis je suis revenu. Mais la fenêtre était condamnée car ma mère m'avait oublié, et un autre petit garçon dormait à ma place, dans mon lit. » Il n'est pas certain que Peter dit la vérité, mais il croyait la dire, et les autres prirent peur. « Tu es sûr que les mères sont comme ça ?»« Oui. » Donc, à propos des mères, il ne se trompait pas. Les monstres. Enfin, mieux vaut se montrer prudent, et nul ne sait aussi vite qu'un enfant quand il vaut mieux faire marche arrière. « Wendy, rentrons chez nous !» s'écrièrent John et Michael. « Oui, mes petits, » dit-elle, en les serrant contre elle. « Pas ce soir ?» demandèrent les enfants perdus, étonnés. Ils savaient, au fond de leur cœur, que l'on peut se passer de mère et que seules les mères s'imaginent le contraire. « Tout de suite, » répondit Wendy, résolue, car une horrible pensée lui était venue à l'esprit. Et si notre mère se croyait en deuil de nous ? Cette perspective lui fit oublier les sentiments de Peter et elle lui déclara d'un ton coupant, « Peter, veux-tu prendre les dispositions nécessaires ?»« Si tu veux ?» répondit-il aussi froidement que si elle lui avait demandé de lui passer des noisettes. Pas l'ombre entre eux de regret de se perdre. Si la séparation indifférait à Wendy, il allait lui montrer, lui aussi, qu'il s'en moquait. Mais il ne s'en moquait pas du tout. Il était si débordant de fureur contre les adultes, qui, comme d'habitude, gâchaient tout, qu'aussitôt rentré dans son arbre, il s'est mis délibérément à halter à raison de 5 respirations par seconde. Et cela à cause d'un dicton du pays de nulle part, selon lequel chaque fois que vous respirez, meurt une grande personne. Et Peter tuait férocement aussi vite qu'il pouvait. Puis, ayant donné les instructions adéquates au pot rouge, il regagna la maison souterraine où s'était déroulée en son absence une scène indigne. Paniqués à l'idée de perdre Wendy, les garçons perdus s'étaient avancés vers elle, menaçant. « Ce sera pire qu'avant son arrivée !» s'écrièrent-ils. « On ne la laissera pas partir. Gardons la prisonnière. C'est ça, enchaînons-la !» Dans cette situation critique, son instinct dicta à Wendy vers lequel elle devait se tourner. « La flûte » cria-t-elle. « Aide-moi, je t'en prie » N'était-ce pas étrange ? Elle appelait à l'aide le plus sot d'entre eux. Grandiose, cependant, la flûte vint vers elle. Dépouillé de sa bêtise, il parla avec dignité. « Je ne suis que la flûte, » dit-il, « et personne ne se soucie de moi, mais le premier qui se conduit mal avec Wendy, je l'étripe. » Il tira son poignard et pendant un instant, son soleil brilla au zénith. Les autres gênés reculèrent. C'est alors que Peter revint et ils comprirent aussitôt qu'il ne fallait pas compter sur lui. Jamais il ne retiendrait une fille contre son gré au pays de nulle part. Wendy, commença-t-il en faisant les 100 pas, j'ai demandé au pot rouge de te guider à travers les bois puisque cela te fatigue de voler. Merci, Peter. Ensuite, continua-t-il de la voix nette du chef habitué à être obéi, Tintam te conduira de l'autre côté de la mer. Réveille-la, le bec. Mes très chers amis, dit Wendy, si vous venez tous avec moi, je suis presque certaine que mon père et ma mère vous adopteront. Cette invitation était surtout destinée à Peter, mais chacun des garçons le prit exclusivement pour lui, et aussitôt ils se mirent à bondir de joie. « Mais est-ce qu'ils ne vont pas nous trouver encombrants ?» s'enquit le bec tout en sautant. « Oh non !» répondit Wendy. Après un bref instant de réflexion, elle ajouta « Il suffira de rajouter quelques lits dans le salon. On pourra les cacher derrière des paravents, tous les premiers jeudis du mois. Peter, on peut les accompagner ?» l'implorèrent-ils tous. Pour eux, cela allait de soi. S'il partait, Peter partirait aussi. Mais, en vérité, c'était le cadet de leurs soucis. Ainsi, les enfants sont-ils toujours prêts, quand l'imprévu frappe à la porte, à abandonner leur chère famille. « D'accord, » répondit Peter avec un sourire amer. Et aussitôt, ils se précipitèrent pour préparer leurs affaires. « Et maintenant, Peter, » dit Wendy, estimant que tout était en ordre, « je vais te donner ton médicament avant que nous partions. » Elle aimait beaucoup leur faire prendre des remèdes et sans aucun doute forçait toujours la dose. Bien sûr, ce n'était que de l'eau, mais versée dans une calebasse, et elle agitait toujours le récipient et comptait les gouttes, ce qui conférait à l'opération un certain aspect médical. En cette occasion, du moins, elle ne donna pas à Peter sa dose, car à peine l'eut-elle préparée qu'elle lut sur son visage une expression qui lui serra le cœur. « Prépare tes affaires, Peter, » cria-t-elle tremblante. « Non, » répondit-il, feignant l'indifférence, « je ne pars pas avec toi, Wendy. »« Pour retrouver ta mère, » fit-elle persuasive. Si Peter avait jamais connu une véritable mère, elle avait depuis longtemps cessé de lui manquer. Il pouvait parfaitement s'en passer. Pis encore, à présent, il ne se souvenait que de ses mauvais côtés. « Non, non, » dit-il à Wendy résolument, « elle dirait peut-être que je suis grand, et moi je veux justement rester un petit garçon et m'amuser. Mais Peter, non !» Il fallut donc prévenir les autres. Peter ne vient pas. Peter ne venait pas. Ils le regardaient sans comprendre, leurs bâtons au bout desquels pendaient leurs baluchons sur l'épaule. Un silence embarrassé s'ensuivit, mais Peter n'était pas de ceux qui flanchent devant les autres. « Tu es prête, Tintam ? » cria-t-il. « Oui, oui !» Alors montre-lui la route. Tin fila au sommet de l'arbre le plus proche, mais personne ne la suivit, car ce fut à cet instant précis que les pirates lancèrent leur terrible attaque contre les peaux rouges. Là-haut, en surface où tout était si calme jusque-là, hurlements, vociférations, chocs sonores. Des lames affûtées déchiraient l'air de toutes parts. Dans la maison souterraine régnait un silence mortel. Chacun restait bouche bée. Wendy tomba sur les genoux, mais ses bras se tendirent vers Peter. Tous les bras se tendirent vers lui, comme poussés par des rafales dans sa direction. Dans une supplication muette, il l'implorait de ne pas les abandonner. Quant à Peter, il saisit son sabre. Dans ses yeux brillait la soif de la bataille. L'attaque des pirates avait pris tout le monde au dépourvu. Preuve évidente que le fourbe crochet l'avait lancé sans respecter les règles. Prendre les peaux rouges par surprise n'est pas en général à la portée des blancs. Il ne nous appartient pas de décrire ce qui fut un massacre plutôt qu'un combat. Ainsi périt presque en totalité la fine fleur des guerriers Nécritos. Certes, plus d'un mourut vengé, car avec Loup Maigre tomba Alf Masson, le fléau des Caraïbes. D'autres aussi mordirent la poussière, au nombre desquels Double Rome, Chat Filou et l'abominable Renner. Filou tomba sous le tomahawk du terrible Panthère, qui réussit à tailler une brèche à travers les pirates avec l'Istigré et une poignée de braves de la tribu. Jusqu'à quel point Crochet est-il à blâmer pour cette tactique douteuse? À l'historien d'en décider. Que pensa-t-il de lui-même à l'heure du triomphe? Les pirates auraient donné beaucoup pour le savoir, tandis que, haletant, ils essuyaient leurs coutelas, rassemblés à distance respectueuse de son crochet, observant de leurs yeux rouges de furet cet homme extraordinaire. Sans doute avait-il le cœur dilaté d'orgueil, mais rien n'en transparaissait sur son visage. Énigme sombre et solitaire, il se tenait à l'écart de ses hommes, d'esprit comme de corps. Mais la tâche de la nuit n'était pas achevée, car ce n'étaient pas les peaux-rouges qu'il était venu détruire. Ceci n'était que des abeilles qu'il avait enfumées pour parvenir au miel. C'était Peter Pan qu'il voulait. Pan, Wendy, toute leur pente. Mais surtout Pan. Peter était un si petit garçon que l'on pourrait s'étonner de la haine qu'il lui avait inspirée. Il est vrai qu'il avait jeté la main de crochet au crocodile, mais cet accident et l'existence périlleuse qui en découlait pour le pirate en raison de l'obstination du crocodile justifiaient mal un désir de vengeance aussi féroce et inexpiable. En vérité, c'était un trait particulier de Peter qui nourrissait la fureur homicide du capitaine pirate. Ce n'était pas son courage, ni son physique séduisant, ni... Non, inutile de tourner autour du pot, car nous savons très bien de quoi il s'agit et nous devons le révéler. Ce trait, c'était l'aplomb de Peter. Cet aplomb mettait les nerfs de crochet à vif, donnait des démangeaisons à son crochet et la sticotait la nuit comme un insecte. Tant que vivrait Peter, ce pirate obsédé se sentirait comme un lion dans la cage duquel est entré un moineau. Et maintenant, il s'agissait de trouver le moyen de descendre dans les arbres et d'y faire descendre ses écumeurs. Il les passa en revue d'un œil avide, à la recherche des plus minces. Ils s'agitèrent, mal à l'aise, car ils savaient que Crochet ne se gênerait pas pour les enfoncer de force avec des bâtons. Entre-temps, que devenaient les garçons? Nous les avons vus, au premier choc des armes, se transformer en pierre, bouche ouverte, bras tendus vers Peter. Et nous les retrouvons maintenant, bouche close, les bras ballants le long du corps. Le vacarme au-dessus d'eux s'est interrompu presque aussi brusquement qu'il avait commencé. Le vacarme est passé comme une rafale de vent, mais ils savent que durant ce bref intervalle de temps, s'est scellé leur destin. Qui donc avait remporté la bataille? Les pirates, l'oreille tendue au-dessus des arbres creux, entendirent les questions posées par chaque enfant. Hélas, ils entendirent aussi la réponse de Peter. « Si les peaux-rouges ont gagné, dit-il, ils vont battre le tam-tam. C'est toujours ainsi qu'ils annoncent la victoire. » Orsmi avait précisément ramassé un tam-tam sur lequel il était assis. Le tam-tam... « Vous ne l'entendrez plus jamais, marmonna-t-il d'une voix inaudible, car Crochet leur avait enjoint le plus strict silence. » À sa stupeur, il vit le capitaine lui faire signe de frapper sur l'instrument, et lentement Smith comprit l'atroce perfidie de l'ordre qu'il avait reçu. Jamais sans doute cet homme simple n'avait autant admiré Crochet. Par deux fois, Smith fit résonner le tam-tam, puis il s'arrêta pour écouter avidement. Le tam-tam, tam-tam, victoire indienne. Les mécréants avaient reconnu la voix de Peter. Les enfants, marqués par le destin, répondirent avec des acclamations qui réjouirent les cœurs dénaturés des scélérats. Puis presque aussitôt, ils renouvelèrent leurs adieux à Peter. Les pirates s'en étonnèrent un instant, mais tous leurs autres sentiments étaient occultés par une sombre allégresse à l'idée que les ennemis étaient sur le point de remonter par leurs troncs creux. Ils échangèrent des sourires grimaçants en se frottant les mains. En silence et sans bruit, Crochet donna ses ordres. Un homme à chaque arbre et les autres en ligne à 2 mètres de distance.
C'était Peter Pan de James Matthew Barrie, avec Claude Rich et Catherine Laborde. Une lecture proposée par Bruno Boussagol. Traduction d'Henri Robillot dans la collection Folio Junior chez Gallimard. Groupe de réalisation Henri Bérec, Jean Frédérix, Martin Hibon, Jacques Taroni.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 décembre 1993. Comme les épisodes précédents, il est à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.